Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche, actualité des archives, actualité des festivals d'histoire. Pour commencer, Jean-Noël Jeannet viendra nous parler de la démission des 10 des 12 membres du Haut Comité des commémorations nationales auquel il appartenait, puis l'archiviste Samuel Gibiat, responsable du département exécutif et législatif aux Archives nationales, évoquera pour nous les archives sur les opérations françaises au Rwanda. On sait que depuis la semaine dernière, et un grand dossier du Monde sur ce sujet, on débat beaucoup de savoir où sont ces archives et comment peut-on les consulter. Puis Catherine Decopé viendra dans sa rubrique « La fabrique de l'autre » nous parler d'un mot, le mot « Rome ». Et enfin, dans la deuxième partie de cette émission, Anaïs Quien recevra Aline Elg et Andreas Würgler, qui tous les deux participent au festival Histoire et Cité, qui se tient ces temps-ci à Genève. Un festival qui a pour thème un thème très important et tout aussi philosophique qu'historique, être libre. Et pour terminer, vraiment, c'était à la une, avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France Retro News, une lecture par Hélène Losseur d'un article du Figaro sur les premiers jours de la Commune. Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas là pour nous dire que demain on pourra écouter dans Concordance des temps la rediffusion de l'émission sur les prisons que vous aviez enregistrée avec Michel Perrault, mais pour évoquer non pas votre activité à France Culture, mais la place que vous teniez dans ce Haut Comité des commémorations nationales auquel vous apparteniez et dont vous avez démissionné il y a deux jours, donc c'était mercredi, par une lettre très cinglante envoyée à Madame la ministre de la Culture Françoise Nyssen, donc avec 10 des 12 membres de ce Haut Comité. Cela fait suite à la polémique autour de la présence dans ce livre des commémorations nationales de la figure de Charles Maurras. Pourquoi cette démission? Quelques temps après cette polémique, pourquoi avoir attendu quelques semaines pour démissionner justement Jean-Noël Jeannet?
Sur le délai, c'est simplement parce que nous avons souhaité opposer la sérénité à la passion de la toile. C'était un rendez-vous, une rencontre qui était prévue de longue main. Nous nous sommes réunis et nous avons pris la décision que vous dites, en effet, qu'il faut probablement expliquer parce qu'elle n'est pas claire pour tout le monde.
Alors pourquoi justement cette démission collective?
Il faut revenir à une base assez simple, c'est que il s'agit d'une instance, d'une institution, le Haut Comité, qui a été fondé en 1998 et qui a destination, qui a la vocation de proposer, je dis bien proposer, au ministre un certain nombre de dates qui méritent d'être rappelées, qui sont mémorables. Et puis ensuite, le ministre décide ou non d'avaliser cette liste. Alors, il y avait de longue main une incertitude sur les fondements de ce choix, puisque on parlait de célébration. Et depuis longtemps, nous étions nombreux, jusqu'en 2011, à souhaiter que on remplace le terme de célébration par celui de commémoration, c'est-à-dire la liste d'événements qui méritent d'être rappelés, qui paraissent mériter, important ou moins, d'être rappelés à la collectivité nationale. En 2011, il y avait une affaire autour de Céline, parce que Céline avait mis dans la liste et que Céline apparaissait à la fois comme un écrivain prestigieux et un personnage assez fétide, une personnalité assez fétide. Et le ministre de l'époque, sur notre suggestion, c'était Frédéric Mitterrand, avait décidé de parler, d'intituler le comité différemment et de l'intituler comité aux commémorations nationales. Le seul fait que l'on soit passé du terme de célébration à commémoration signifiait que notre mission devenait différente et qu'on pouvait dès lors et qu'on devait évoquer un certain nombre d'événements dont nous avons tous motif à nous chagriner. Les choses devenaient assez claires. On était voué à parler, par exemple, de la commémoration de la grippe espagnole ou tel ou tel personnage qui apparaissait du même coup ne pas mériter assurément d'être célébré, mais d'être commémoré. C'était très clair à partir de là, puisqu'on avait changé. La commémoration est en quelque sorte un ensemble à l'intérieur duquel il y a la célébration. Mais nous avons évoqué, par exemple, Simon de Montfort, qui a, que vous savez, réprimé les albigeois de manière barbare et n'était pas en même temps que René Cassin, qui est une figure admirable. Donc les choses étaient tout à fait claires. Et d'ailleurs, la ministre avait ratifié cela, puisque le livre des commémorations que nous publions chaque année a été précédée d'une préface très louangeuse d'elle qui manifestait qu'elle l'approuvait. C'était donc un ensemble tout à fait limpide jusqu'au moment où un certain nombre de protestations ont découvert que nous évoquions Charles Maurras et que par conséquent, puisque nous le commémorions, d'une certaine façon, nous le célébrions. C'était vraiment absurde. C'était ne pas prendre en compte la réalité de la mission telle qu'elle avait été définie. Et c'est pourquoi nous avons réagi de la sorte.
Mais ce malentendu, pourrait-on dire, ou cette incompréhension de l'opinion publique, il faut l'entendre aussi, Jean-Noël Jeannet. Qu'est-ce qui, ça vous paraît évident, ainsi qu'à tous les membres du comité, que commémorer, ça n'est pas célébrer. Et pourtant, c'est comme cela que ça a été entendu par une partie de l'opinion publique, une grande partie de l'opinion publique, qu'en mettant à l'agenda, pourrait-on dire, des commémorations Charles Maurras, eh bien, on allait le célébrer, en tout cas rappeler sa mémoire, alors qu'il était un ennemi de la République, ce que vous rappelez vous-même, d'ailleurs, dans votre lettre de démission collective, Jean-Noël Jeannet.
C'est vrai, sur cette incertitude, vous avez raison, mais c'était la bonne occasion pour la ministre de rappeler devant l'opinion publique quelle était la règle du jeu que l'on nous proposait, telle qu'elle avait été définie. J'observe, d'ailleurs, je ne sais pas si cela vous a échappé ou non, que lors d'une improvisation au cœur du discours que le chef de l'État a prononcé devant le CRIF, il a rejoint absolument notre position, puisqu'il disait qu'il y avait un groupe d'experts qui avait déterminé, dit-il, ce qui est non pas un hommage national qu'il faut rendre à une personne, mais l'inscription des dates qui ont fait l'histoire de France. Et il parlait de Maurras en disant qu'il a participé à l'histoire de France et qu'il estimait que ce n'était pas une bonne idée ni une bonne réaction collective de vouloir l'effacer. Ça ne veut pas dire, ajoutait Emmanuel Macron, qu'il faut le glorifier, ça ne veut pas dire qu'il faut le totémiser, mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il a existé, parce que l'occulter, c'est lui donner une place étrange. Si la ministre de la Culture avait expliqué ça tout tranquillement, je crois que la polémique se serait éteinte aussitôt. Alors que sa position a pu donner le sentiment à certains que les membres du comité ratifiaient je ne sais quelle approbation à Charles Maurras. Et Pascal Horry et moi-même qui nous sommes portés en avant au début, nous ne sommes pas des porte-parole de l'Anse des 11, des 10 des missionnaires, nous sommes portés en avant au début, nous avons expliqué cela et il suffisait de l'approuver et de le porter en quelque sorte. Chacun aurait compris, on aurait évité un certain nombre d'émotions dont je comprends les racines, mais qui en réalité n'étaient pas à nos yeux légitimées. Et puis ni Pascal Horry ni moi n'avons, je crois, montré patte blanche quant à nos réactions, nos excès en témoignent, quant à nos réactions à l'égard de Charles Maurras, qui, à nos yeux, tel que nous l'avons étudié, apparaît comme un personnage d'un bout à l'autre, hostile à toutes les valeurs de la République et de la démocratie telles que nous les aimons, et qui en particulier, c'est lui qui au moment du Front Populaire avait dit qu'il fallait fusiller Léon Blum dans le dos, et c'est lui qui a parlé de divine surprise, enfin, chacun le sait, au moment où Pétain a surgi en 1940, c'est lui qui a été condamné, la notice, le rappel à la libération. Vraiment, je crois qu'il faut revenir à une idée toute simple.
La notice ne rappelait pas son antisémitisme formel, d'une certaine manière, dans le texte de la notice, et peut-être aussi cela conduit certains à dire, mais pourquoi ne dit-on pas qu'il était antisémite? Alors certes, il y avait, entre parenthèses, tous les ennemis de Charles Maurras dans cette notice, mais pas ce mot d'antisémitisme qui peut-être, enfin je ne sais pas d'ailleurs, aurait pu calmer ceux qui critiquaient sa présence dans ce livre des commémorations nationales. Comment cela va-t-il se terminer, Jean-Noël Jeannet, puisque vous avez tous et toutes démissionné à l'exception de deux membres de ce comité, Daniel Salnave qui le présidait et Catherine Bréchignac. La ministre a annoncé une évolution de ce comité. Vous allez regarder cela avec distance désormais?
Avec distance forcément, avec intérêt bien sûr, avec curiosité et avec un peu d'incertitude sur la définition qui pourra être donnée de cette instance si on la reconstitue, à partir de bases qui devront être claires. Alors ou bien on gardera les bases antérieures telles qu'elles ont été définies, ou bien on décide de ne choisir que des moments qui méritent d'être célébrés. C'est-à-dire que par exemple, on célébrera la victoire de 18, j'imagine, mais on ne célébrera plus la guerre de 1914-18, qu'une mission a été vouée à commémorer depuis maintenant 4 ans. J'ai été président de la mission du bicentenaire, vous le rappelez peut-être, de la Révolution française. Bien sûr, nous avions évidemment célébré le 14 juillet et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, mais nous n'avions pas célébré la terreur, en revanche, nous l'avions commémoré. Il me semble que cela peut être très facilement clair pour tout esprit serein.
Merci beaucoup Jean-Noël Jeannet d'être venu nous parler de cette démission collective de ce haut comité aux commémorations nationales, et on vous entendra demain donc dans la rediffusion de Concordance des temps à 10h, puisque l'histoire continue sur France Culture le samedi. Vous recevrez donc Michel Perrault à propos des prisons inhumaines ou pas.
Bonjour à tous. Mission humanitaire avant tout pour les soldats français au Rwanda. L'opération Turquoise, votée par le Conseil de sécurité de l'ONU, doit porter secours aux populations civiles. La France va déployer 2500 parachutistes. 200 se trouvent déjà à la frontière du Zaïre et du Rwanda. Dans un instant, les explications de François Léotard et de Michel Polaco sur le dispositif mis en place. Le FPR dénonce toujours l'intervention française comme un acte d'agression.
C'était en 1994, pendant l'été 1994, et très régulièrement dans l'histoire de notre pays revient cette question du génocide des Tutsis du Rwanda. C'était déjà le cas il y a 4 ans de cela, pour le 20e anniversaire de ce génocide. Beaucoup d'émissions de France Culture avaient été réalisées à la Fabrique de l'Histoire, mais ailleurs également, et en particulier l'entretien exclusif à l'époque de Guillaume Ancel, qui a relancé la polémique la semaine dernière en publiant, lui qui était soldat de cette force turquoise française au Rwanda, « Rwanda, la fin du silence », témoignage d'un officier français. C'est aux belles lettres. On pourra d'ailleurs, je crois, réécouter l'entretien qu'il avait donné à Laure de Vulpian sur France Culture en 1994 sur notre site très rapidement. Alors voilà qui a lancé une polémique, une discussion sur, en particulier, la place des archives dans cette question, puisque les articles du Monde qui relayaient et proposaient les bonnes feuilles de ce livre de Guillaume Ancel la semaine dernière développaient aussi des idées sur les archives. Où sont les archives du Rwanda? On a voulu se poser la question avec vous, Samuel Gibia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable du département exécutif et législatif aux archives nationales. Où sont ces archives du Rwanda?
Alors,
L'action française au Rwanda, plus exactement.
Oui, pour des raisons institutionnelles anciennes, en fait, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense ont l'autonomie de gestion de leurs archives depuis le XVIIe siècle. Donc, en l'occurrence, ce sont leurs services d'archives respectifs qui assurent la conservation des archives relevant de leurs compétences. La Direction générale de la Sécurité extérieure, la Direction du renseignement militaire ont également des archives relatives à cette période. Et également les archives nationales pour ce qui concerne les archives de l'exécutif, ainsi que le service des archives des assemblées, enfin les services d'archives des assemblées,
pour les
qui ont les archives des commissions parlementaires, effectivement.
Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de dispersion, il y a aussi des archives à l'Institut François Mitterrand, donc Samuel Gibia, et que un citoyen, puisque je crois que les citoyens ont droit à un accès aux archives depuis la Révolution française, avec évidemment des temps de communication différents selon le type d'archives, les citoyens ou les chercheurs, et c'est peut-être la question de la recherche qui nous intéresse le plus ici, ont à devoir fouiller dans des fonds d'archives très différents, au statut très différent aussi, Samuel Gibia, c'est-à-dire aux conditions d'accès très différentes.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de conditions d'accès extrêmement différentes. Disons que nous avons tous la même loi d'archives fondamentalement codifiée au sein du Code du patrimoine qui s'applique et les mêmes décrets d'application centraux. En outre, les archivistes sont tous plus ou moins formés dans le même environnement professionnel. Donc je crois au contraire qu'il y a quand même beaucoup de points de convergence. Simplement, ce qu'il faut préciser, évidemment, c'est que pour des archives qui relèvent d'une certaine sensibilité relative à la conduite des opérations extérieures, à la protection aussi physique et morale des personnes, on a nécessairement, en effet, comme vous le disiez,
des délais
spéciaux qui s'appliquent, mais dans les mêmes termes, finalement, dans les différentes institutions de conservation archivistique. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'effectivement, pour ce qui concerne plus précisément les archives des présidents de la République et de leur entourage, des premiers ministres également, et de leurs collaborateurs de cabinet, il a été mis en place, à partir de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, un principe de protocole de versement, qui est entériné dans la loi depuis 2008, qui donne aux anciens présidents, aux anciens premiers ministres, ou éventuellement aux mandataires qu'ils désignent, le droit de réguler, si on peut dire, l'accès à ces archives pendant un certain temps qui ne peut pas excéder 25 ans après la mort de l'ancien président, de l'ancien premier ministre, dans l'état actuel du droit.
Donc, c'est le cas, par exemple, pour les archives de François Mitterrand, j'imagine, avec un mandataire donc, qui est Dominique Bertinotti, au nom de l'Institut François Mitterrand. Cela veut dire que les archives que vous possédez, en l'occurrence aux Archives nationales, puisque vous êtes vous-même aux Archives nationales, et on a bien compris qu'il y en avait ailleurs, en particulier, on a cru découvrir dans cette enquête du Monde la semaine dernière, moi personnellement je l'ai découvert, qu'il y avait 250 cartons d'archives qui avaient été versés au service historique de la Défense à Vincennes, et évidemment ces archives sont sûrement très intéressantes, puisque ce sont des archives militaires sur les opérations françaises au Rwanda. Mais il y a les archives de la DGSE, il y a les archives et des commissions parlementaires, on l'a dit. Mais chez vous, on peut les consulter dans quelles conditions? Qui peut y venir? Est-ce qu'elles sont classées? Est-ce qu'elles sont déclassifiées pour certaines lorsqu'il y a besoin de les déclassifier, en l'occurrence Samuel Gibien?
Alors, effectivement, comme vous l'avez souligné, tout citoyen peut demander à accéder aux archives de l'action publique, y compris sur ce sujet. Le président Hollande a souhaité en 2014 qu'une commission d'examen se réunisse pour étudier les modalités de déclassification, comme vous l'avez souligné, d'un maximum de documents relatifs aux opérations militaires au Rwanda. Et en ce qui concerne précisément les archives présidentielles, donc de la présidence de François Mitterrand, ce sont 184 documents qui ont fait l'objet d'une déclassification entre décembre 2014 et mai 2016 par les autorités classificatrices, donc le secrétariat général de la présidence de la République, le secrétariat général du gouvernement, la direction générale de la sécurité extérieure et le ministère de la Défense.
Ça veut dire que lorsque vous avez choisi ou vous avez le choix de déclassifier un document, vous devez demander à toutes ces instances que vous venez de citer, l'autorisation de le faire, et cela a été fait pour plus d'une centaine de documents donc provenant de l'action de François Mitterrand en tant que président de la République.
C'est tout à fait ça, effectivement. Nous ne sommes pas autorité déclassificatrice, donc on doit s'adresser aux autorités classificatrices pour examiner et mettre en œuvre la déclassification. Tout à fait.
Et ces archives déclassifiées sont disponibles pour qui aujourd'hui donc?
Elles sont disponibles, comme je l'ai dit, pour tout chercheur qui souhaiterait y accéder. En l'occurrence, nous n'avons pas eu beaucoup de demandes directement liées au Rwanda, puisque je crois qu'une dizaine de personnes, essentiellement des chercheurs de la sphère universitaire, mais pas tout à fait uniquement, ont demandé à y accéder, et 9 d'entre elles ont eu un accord total ou partiel pour y accéder depuis 2 ans.
Donc, ces archives sont déclassifiées en partie, elles sont classées aussi, en l'occurrence Samuel Gibia, c'est-à-dire que on les a entièrement classées, ces cartons d'archives que vous possédez aux Archives nationales, ou encore, on peut faire, ce qui arrive très souvent d'ailleurs dans le domaine de l'archivistique, on peut faire encore des découvertes parce qu'elles sont, disons, elles ne sont pas très bien classées, on ne sait pas très bien où elles sont.
Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits ces dernières années, notamment depuis l'automne dernier, en matière de publication d'inventaire de la présidence François Mitterrand. Lorsque les inventaires ne sont pas complètement encore publiés en ligne sur Internet, on élabore des états des sources et on oriente les chercheurs en fonction de leur champ de recherche pour justement leur permettre de brasser le plus efficacement et le plus largement possible les fonds qui relèvent de notre compétence.
Donc on peut espérer qu'il y ait des travaux qui puissent sortir justement, des articles, des colloques, des livres peut-être, qui puissent sortir de ces fonds que vous conservez aux Archives nationales et qui puissent soit confirmer, soit infirmer les déclarations des témoins, comme d'ailleurs ce qui est dit dans le livre de Guillaume Ancène sur l'opération Turquoise qui a été publié la semaine dernière aux Belles Lettres.
Notre vocation est toujours évidemment d'encourager au maximum la recherche. Alors je ne dis pas que ce sont exclusivement nos archives qui apporteront des éléments nouveaux et des éléments de réponse, mais en revanche la mise en corrélation, la mise en perspective, le recoupement des fonds en fonction de leur provenance, de leurs émetteurs, des modalités de leur constitution permettront de faire émerger la vérité historique, si on peut dire, la plus fine effectivement.
Merci Samuel Gibia d'être venu nous présenter ces fonds d'archives et puis nous suivrons cette affaire à la Fabrique de l'Histoire puisque nous nous intéressons bien évidemment depuis longtemps à cette question du génocide des Tutsis du Rwanda et vous reviendrez peut-être nous dire comment les autres institutions que la vôtre, que les Archives nationales, ont pu évoluer justement sur ces questions de communication de documents d'archives aux chercheurs et aux citoyens. Merci encore.
Libellis, conservateur, homme politique, insoumis, arc, geek, souffri, paysan, red cause, arc, pétroleuse, souffri. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet.
Bonjour Catherine de Copé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour votre rubrique mensuelle La Fabrique de l'Hôte. Alors, vous venez comme chaque mois pour votre chronique La Fabrique de l'Hôte nous expliquer comment un nom a pu désigner une catégorie de personnes. Et à l'occasion de deux expositions qui se tiennent à Paris, celle de l'artiste Seija Stoka, c'est à la Maison Rouge, et l'expo photo Monde Tzigane au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, vous vous penchez sur un mot, le mot Rome.
Impossible d'épuiser en 5 minutes malheureusement la richesse de ce terme, alors comme d'habitude je vais m'intéresser au mot lui-même avant de plonger dans l'histoire. Aujourd'hui, Rome est un terme générique, utilisé comme tel au niveau européen, pour désigner les descendants d'une population originaire d'Inde, venue s'installer autour de l'an 1000, progressivement vers l'ouest, jusqu'à l'Europe, afin de former trois groupes, les Sinti, les Calais et les Roms, entendus ici comme sous-groupes. Des groupes distincts par leur région d'installation, mais aussi parfois par la langue romani n'étant pas la seule pratiquée. Quant à l'origine étymologique de Rome, elle est incertaine. En tout cas, l'une des hypothèses fait du mot un dérivé du nom du dieu indien Rama. Mmh. Si le terme Rome a été adopté par certains représentants de ces populations pour revendiquer leur existence comme peuple à part entière, il est aussi utilisé à tort et à travers dans le langage médiatique, semant ainsi beaucoup de confusion. Rome désigne souvent dans les médias les populations roms de Roumanie, Bulgarie et Hongrie qui émigrent en France depuis les années 90 et en particulier celles se retrouvant à la rue dans une situation sociale complexe. Une désignation qui est en fait une stigmatisation car elle ne rend pas compte de la réalité. L'immigration des Roms d'Europe de l'Est s'intègre dans un mouvement plus global d'immigration issue de ces pays. Elle ne concerne donc pas les seuls Roms. Autre trompe-l'œil, la situation sociale très précaire de certains de ces immigrés, visible donc dans le paysage urbain, nourrit le cliché d'une population itinérante, alors même qu'en Europe de l'Est, la majorité des Roms sont depuis plusieurs dizaines d'années sédentaires. Enfin, sur la base de ce cliché, et à tort, le terme Rom va jusqu'à désigner l'ensemble des populations dites tziganes en France, dont l'histoire est bien plus ancienne.
Et c'est sur cette histoire plus ancienne que vous souhaitez revenir, Catherine, car les tziganes de France ont pendant longtemps été assimilés à des étrangers. En fait.
Oui, un peu comme si le cliché se retournait. Alors, la population tzigane est présente en France depuis le XVIe siècle, avec l'implantation progressive de dynasties Sinti et Manouche, un groupe apparenté aux Sinti. Si l'ancien régime accordait la protection seigneuriale à certaines de ces familles, comme l'a montré Henriette Asseo, la stigmatisation de cette population par les autorités se construit progressivement pour s'accélérer à la fin du XIXe siècle, dans un contexte de lutte contre l'insécurité publique. À l'époque, on ne parle pas de Roms ni de tziganes d'ailleurs, mais plutôt de bohémiens et de romanichels. Un ensemble de décisions administratives et juridiques vont renforcer la création d'une figure de paria moderne censée être incarnée par ces tziganes. À commencer par la décision en 1895 de recenser tous les nomades bohémiens et vagabonds, je cite évidemment, suivi quelques dizaines d'années plus tard par la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades. Alors cette loi très intéressante instaure définitivement dans le paysage politique et social la catégorie des nomades, citoyens à part alors qu'ils sont pour leur majorité français. Ils sont soumis à différents contrôles de circulation, effectifs grâce à des carnets d'identité anthropométriques, très à la mode à l'époque. De fait, chaque individu y figure en photo, de face et de profil, enfant comme adulte, avec ses empreintes digitales et ses feuilles de vaccination. Le carnet doit être visé à chaque entrée et sortie de commune, quelle qu'elle soit, rendant la mobilité très difficile. Donc tout en les distinguant des forains, la loi de 1912 définit, sans les nommer, les populations tziganes. La définition se réduit à leur nomadisme, une particularité assimilée à un danger pour la communauté nationale.
Et c'est cette dangerosité supposée qui amènera le gouvernement français, Catherine, à développer un traitement particulier de cette population dite Rome, donc, et ce dès la Première Guerre mondiale.
Oui, comme l'a bien montré Emmanuel Filliol, les tziganes des zones récupérées par l'armée française en Alsace et en Lorraine, dès 1914, sont évacués puis internés sur ordre du gouvernement, qui les assimile à des espions menaçant la défense nationale. Ces tziganes d'Alsace-Lorraine seront finalement regroupés dans le camp de Cray, dans la Drôme, jusqu'en 1918, tandis que les tziganes du reste du territoire sont mobilisés comme tous les Français. Un scénario qui ne faisait qu'anticiper celui du second conflit mondial, un peu plus connu, sous Vichy, un décret de 1940 assigne à résidence tous les nomades visés par cette loi de 1912. Et le régime de Vichy va s'appuyer rapidement sur une décision allemande pour interner quelques 6000 tziganes dans des camps entre octobre 1940 et mai 1946. Et il faut savoir que l'État français ira jusqu'à créer des camps spécifiques pour cette population, comme celui de Salier, par exemple, tout près d'Arles. Après la guerre, l'État ne cessera de traiter de façon particulière ces populations, notamment avec la loi de 1969 qui remplace et allège d'une certaine façon celle de 1912, mais tout en créant une nouvelle catégorie administrative, les gens du voyage. Une fois de plus, l'expression crée une catégorie de citoyens à part, sans pour autant la caractériser, une façon en fait de désigner sans reconnaître ni les spécificités, ni surtout la variété culturelle de cette population.
Merci beaucoup Catherine Decopé. On pourra avoir plaisir à vous relire sur la page spéciale de La Fabrique de l'Autre, sur la page de La Fabrique de l'Histoire, sur le site France Culture, et on se retrouve le mois prochain. Un extrait de la Hot Sonate de Erwin Schulhoff, donc interprété par les Bonnie Band d'Amsterdam, qui est au programme, parce qu'il n'y a pas que des tables rondes et des conférences, du festival Histoire et Cité qui se tient à Genève. Et vous, où vous vous trouvez, Anaïs Quien, avec vos invités, un festival qui a pour thème cette année être libre. Vous êtes donc à Genève en duplex depuis les studios de la radio suisse grâce à Anne-Marie Zurcher qui est la technicienne qui vous y accueille à Genève. Bonjour Anaïs.
Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors merci d'être là et d'avoir vos invités auprès de vous pour évoquer certains des thèmes qui seront développés sous ce grand thème évidemment très large, autant philosophique qu'historique, qui est le thème d'être libre.
Oui, tout à fait. Alors, vous le rappeliez, Emmanuel, des conférences, des débats, des films aussi, des dédicaces, des lectures, et même cette année, un journaliste unplugged, aujourd'hui à 18h, une version genevoise des live magazines qui vous sont si chers, Emmanuel.
Eh oui, alors il y a évidemment beaucoup de façons de parler d'histoire, et on sait que les festivals d'histoire se multiplient. Et malgré tout, vous avez auprès de vous des gens qui ont choisi de décliner la thématique, donc de manière très très différente, puisqu'on y parlera d'un côté d'esclavage et de l'autre côté de la fameuse liberté suisse, Anaïs.
Tout à fait, oui. Cette journée de vendredi est marquée par trois grands thèmes, si on analyse un peu le programme. Le mai 68 suisse, l'esclavage et effectivement la liberté dans l'histoire suisse. Alors je suis accompagnée dans ce studio de la RTS par Aline Hell, qui est professeure à l'Université de Genève et qui participera à la table ronde de demain de l'esclavage au travail à la chaîne contre les résistances avec Antonio Martinez et Jean-Baptiste Mallet. Bonjour Aline.
Bonjour.
Et nous sommes également en studio avec Andreas Würgler, qui est professeur d'histoire médiévale et moderne également à l'Université de Genève. Et vous participez aujourd'hui, immédiatement après l'émission, à 11h, à une discussion sur le thème « La liberté suisse, fantasme des autres ». Bonjour Andreas. Alors quel est ce fantasme de liberté suisse ? C'est l'occasion aussi pour vous de revenir sur une figure qui nous paraît bien connue et qui ne l'est pas tant que ça, qui est une légende, celle de Guillaume Tell, qui incarne dans l'imaginaire populaire cette liberté suisse, puisque si on le représente visant une pomme sur la tête de son fils, il faut bien se rappeler que c'était une punition pour avoir défié le pouvoir impérial des Habsbourg.
Oui, exactement. Merci de l'invitation. Alors, d'abord, on peut se demander depuis quand on parle de cette liberté suisse. Et ça s'est construit à la fin du 15e siècle. Et c'est pas, il y a une cause. C'est seulement à la fin du 15e que la petite confédération des cantons suisses devient visible sur le plan européen à cause de son succès militaire qui choque l'Europe des princes. Ils ont gagné les guerres de Bourgogne contre Charles le Téméraire qui était, admiré et redouté par en France et au Saint-Empire. Ils ont gagné la guerre de Souabe ou guerre de Suisse, selon la perspective, contre l'Empire. Et ils avaient beaucoup de succès au début des guerres d'Italie. Alors, c'était le moment où on se rend compte en Europe qu'il s'est formé une petite entité politique au sein du Saint-Empire. Qu'est-ce que ça a à faire avec la liberté? D'abord, il faut peut-être dire que le terme liberté n'est pas tellement au centre des débats politiques à cette époque-là, c'est plutôt la paix, la justice, la sécurité. Mais pour les Suisses, c'était un problème de légitimité. Pourquoi ? Ils se sont émancipés de la seigneurie des Habsbourg, ce qui est raconté dans cette légende de Guillaume Tell. Oui. Et les Habsbourg leur ont reproché d'être les rebelles, avoir fait la sédition, s'être révoltés contre leur seigneur naturel. C'est la désobéissance, et alors il faut les exécuter, en principe, selon le droit de l'époque. Alors ils ont un problème de légitimité. Et pour ça, ils ont fait recours à cette figure du droit romain, que c'est légitime de tuer un tyran, un seigneur qui est dégénéré dans un comportement tyrannique.
C'est-à-dire qu'on convoque cette légitimité du tyrannicide.
Voilà, exact. Et ça, ça n'a rien à faire avec l'histoire, comment elle s'est déroulée au 14e, parce que la légende raconte l'histoire du début du 14e, mais à la fin du 15e, on le raconte comme ça, parce que cette époque des guerres.
Mais d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que cette notion de liberté suisse est développée en Suisse, évidemment, Andreas Würgler, mais elle va être reprise ensuite avec beaucoup de succès par des non-suisses, par des auteurs, par des penseurs, qui vont largement exploiter à la fois cette légende de Guillaume Tell, mais aussi cette notion de liberté suisse pour leur propre raisonnement sur leur liberté nationale.
Oui, exact. Il y a plusieurs aspects. Alors, la liberté, c'est un terme très flou. Ça comporte la liberté comme indépendance, comme on dirait aujourd'hui, et liberté comme souveraineté, comme on dit dès le XVIIe siècle, liberté personnelle, alors le non-servage, mais aussi d'autres. Au XVIIIe, c'est un synonyme pour ne pas payer des impôts. Et les Suisses sont fameux pour payer peu d'impôts.
Emmanuel, je crois que vous voulez poser une question.
Oui, justement, cette façon dont les autres reprennent cette idée de la liberté suisse va-t-elle faire retour sur les Suisses eux-mêmes? C'est-à-dire d'avoir promu cette idée de la liberté suisse dans un premier temps et de voir que ça a beaucoup de succès dans l'Europe entière. Est-ce qu'au bout du compte, cela va convaincre les Suisses que c'est la particularité de leur pays que de défendre cette liberté, Andreas Würgler?
En avait-il besoin pour en être convaincu?
Bon, là, il faut dire que la Suisse est petite mais compliquée. Est diverse. Il y a une grande complexité de situation de pouvoir en Suisse. Pour la Suisse centrale, on a cette canton dite démocratique où la liberté est là, la liberté personnelle, mais aussi la liberté dans le sens de Rousseau, alors être souverain, participer comme citoyen à la législation et de n'obéir à aucune loi qu'on n'a pas consentie. Dans les autres régions, canton de Berne, Zurich par exemple, la grande majorité des habitants sont des sujets comme un peu partout en Europe.
Mm-hmm. Alors là, c'est on ne part pas du même endroit pour revendiquer
voilà,
cette liberté.
Voilà, et on fait un mélange. Et du point de vue de l'Europe, on a l'impression que pas tout le monde qui parle de la Suisse se rend compte de ces différences.
Oui, c'est
alors,
vrai.
On préfère un peu d'avoir la vision de la liberté. Et ça s'avère comme problème, par exemple, les mouvements de révolte dans l'Allemagne du Sud au début du XVIe, ils avaient vraiment l'idée que les cantons suisses vont leur soutenir pour s'émanciper de leur seigneur.
Donc, mais dès ce moment-là, on voit bien que la Suisse devient un étendard de la liberté. On l'utilise, oui. Ses voisins l'utilisent.
C'est un modèle,
pour la
une vision. Oui. Mais ça tourne mal parce que c'est une illusion de ces fantasmes, ces visions, illusions, etc. Et c'est une illusion parce que les cantons suisses n'ont pas envie de soutenir les mouvements de rebelles parce qu'ils ont eux-mêmes peur de leur sujet. Alors, c'est pas la même dimension. Mmh. Et même ceux qui se sont réfugiés en Suisse, après les révoltes en Allemagne, ont été supprimés. Dans quelques cantons, on les a cachés et protégés. Dans les autres, on les a exécutés. Alors, c'était toujours... ça me semble assez intéressant. Le mythe de la liberté suisse se conserve quand même jusqu'au XVIIIe, même si on a eu de mauvaises expériences.
Et aujourd'hui, Andreas Würgler, ce mythe de la liberté suisse, il fonctionne peut-être moins à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Suisse.
Bon, aujourd'hui, la discussion est un peu, disons, politique dans le sens qu'il y a certains courants en Suisse qui veulent prétendre d'avoir le monopole sur la définition plutôt de Suisse que de liberté, mais parce que c'est lié, c'est un débat un peu autre.
Et vous avez
excusez-moi, Emmanuel, je ne vous avais pas entendu.
Non, non, c'est pas grave. Non, vous avez aussi Aline Helg à côté de vous, qui interviendra, comme vous l'avez dit, dès demain, entre 11h et 12h30, dans une table ronde autour de l'esclavage, qui est aussi, évidemment, une question liée au thème de ce festival Histoire et Cité, c'est-à-dire être libre.
Oui, ce sera à l'Université du Four à 11h demain, de l'esclavage au travail à la chaîne, contrôle et résistance. Alors, nous n'allons pas anticiper sur cette discussion, puisque vous serez trois, Aline Helg, à en parler, à essayer de penser cette question. Mais peut-être il nous faut revenir sur les formes de résistance des esclaves d'Amérique sur lesquelles vous avez travaillé. Et contrairement à ce que véhicule l'imaginaire, et notamment l'imaginaire cinématographique peut-être, les grandes insurrections sont rarement les plus efficaces et les plus courantes pour les esclaves noirs d'Amérique pour se libérer et pour vivre libre.
Absolument. Et en fait, c'est une des grandes découvertes de mon travail. Peut-être juste pour revenir un tout petit peu en arrière sur ma propre démarche, j'ai commencé par travailler sur les afrodescendants des Amériques, notamment à Cuba, en Colombie, dans la construction de la nation, hein, face à l'esclavage, face aussi au post-esclavage, et face au racisme pseudo-scientifique qui cohabite donc avec la création de républiques.
La construction intellectuelle du racisme.
Voilà, mais ces afrodescendants participent à la construction d'une nation qui se veut républicaine, mais qui en même temps partage pour les grands dirigeants blancs de l'époque les théories racistes de l'époque. Donc c'était très très difficile d'entrer comme citoyen en plein dans la nation. Et à partir de là, je me suis intéressée à cette catégorie sociale qui s'appelle les libres de couleur et dont on trouve la terminologie dans toutes les sociétés esclavagistes des Amériques, ce qui est fascinant parce qu'au fond, ça veut dire libre. Hein, on ne dit pas les blancs de couleur, les blancs libres, mais les libres de couleur. Il faut préciser, ils sont de couleur, mais il faut préciser qu'ils sont libres. Donc on voit que là, c'est une catégorie qui va se construire au moment de l'esclavage. Et je me suis posé cette question, au fond, comment cette catégorie s'est formée et comment tant de personnes, d'esclaves au fond, sont arrivées à devenir libres sous l'esclavage et avant l'abolitionnisme.
Et d'ailleurs, dans votre ouvrage « Plus jamais esclave », Aline Helg, vous racontez bien à quel point ces grandes révoltes massives interviennent à un moment tout à fait favorable, c'est-à-dire qu'on ne se révolte pas collectivement n'importe quand. Et d'ailleurs, la forme la plus courante de libération, c'est la fuite, tout simplement, voilà. Et le marronnage.
Voilà. Et c'est une des grandes découvertes de cet ouvrage, parce que cet ouvrage est bien sûr basé sur la littérature secondaire, parce qu'il couvre toutes les Amériques. Mais dans la littérature secondaire, on a une espèce de glorification de la révolte. Et en fait, en lisant vraiment à fond toutes ces études, les croisants, etc., on comprend que les historiens sont obsédés presque par la révolution haïtienne, qui est vraiment un grand tournant dans l'histoire des Amériques. Et ensuite, ils vont se mettre, surtout dans les années 1980 et jusqu'à la fin du XXe siècle, de trouver les possibles révoltes qui auraient pu éclater pour donner une espèce d'image du héros, presque à la Che Guevara, de l'esclave. Alors qu'en fait, quand on regarde sur le long terme, et on regarde vraiment à fond, on voit que la plupart des esclaves qui se sont libérés l'ont fait tout autrement, et comme vous le dites, en comprenant au fond le terrain. Et il faut aussi se rappeler que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Amérique est très peu colonisée. Donc il y a d'immenses étendues vers lesquelles on peut fuir. Et
Que ça n'est pas seulement une histoire de la libération, de l'acte de s'affranchir ou de fuir, c'est aussi une histoire de comment vivre libre, comment inventer les endroits, les territoires et les formes de vie collective. Exactement. Pour vivre libre.
Et donc on peut vraiment dire que la colonisation ou la pré-colonisation, elle a été faite en partie par ces esclaves fugitifs qui ont été s'installer dans l'intérieur, parfois aux dépens des communautés amérindiennes qui avaient survécu là. Et quand vous regardez la carte des Amériques, la population, vous voyez que des régions entières, métissées, etc., sont en fait des régions qui ont été peuplées à l'origine au XVIIe, XVIIIe siècle par des esclaves fugitifs qui se sont mêlés aussi à des Indiens. Et l'autre grande façon dont les esclaves se sont libérés, c'est bien sûr l'achat de la liberté. Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce que, bon, c'était plus facile de le faire quand on est dans une colonie ou de l'Espagne ou au Brésil parce que c'était dans la loi. Ils reprennent la loi romaine qui autorise aux esclaves la possibilité de s'affranchir, même on peut dire par à-compte, hein, une sorte de leasing des voitures, eh bien, ça existait pour les
esclaves. Qu'on se libère à crédit.
D'abord, on se libère par tranche. Hein, on peut, et une fois qu'on a payé d'une certaine façon, on ne peut plus être vendu ailleurs, etc. Mais aussi, et ça c'est beaucoup plus dramatique, beaucoup n'arrivent jamais à réunir toute la somme que cela présuppose. Et donc, ils empruntent et ils commencent leur vie de libre extrêmement endettés.
Emmanuel Laurentin.
Aline Helg, on voit bien que combien cette question de l'histoire de l'esclavage a profité de tout un tas de façons de regarder justement ces questions de domination de façon nouvelle aujourd'hui, et en particulier de l'importation de ce terme d'agency de qui vient de la sociologie américaine, en particulier de la capacité d'action des acteurs pour montrer justement les variétés qui vont au-delà de la simple domination évidemment qui est lié à cette condition d'esclave, mais aussi qui permet de comprendre comment chacun a pu se débrouiller avec cette domination et jouer donc pour pouvoir aller dans les marges et partir par exemple dans le marronnage comme vous le racontez Aline Helg.
Tout à fait. Et l'autre découverte que j'ai faite, mais c'est basé bien sûr sur la littérature secondaire, c'est aussi cette capacité à s'insérer dans les débats des puissants pour en fait s'en approprier le langage. Et là, justement, ce langage sur la liberté, on voit que, notamment aux États-Unis, pendant les grandes, ce qu'on appelle le revival, des grands mouvements de renaissance religieuse qui se passent à partir de 1740-60, où il y a une espèce de revivalisme religieux, les esclaves sont là, certains esclaves sont là, ils écoutent et ils absorbent tout ce discours de liberté qui provient de la Bible, et notamment un thème que l'on retrouve beaucoup, c'est l'identification avec les Juifs qui sont vendus esclaves en Égypte et cette sortie d'Égypte. Hein. Et c'est dans les thèmes un peu partout, et on les trouve même dans les Negro Spirituals après. Hein. Donc c'est assez fascinant de voir cette capacité-là à absorber la même chose pendant les luttes d'indépendance.
Merci Aline Helg et merci à vous Andreas Würgler. Donc Andreas Würgler, on peut vous retrouver aujourd'hui à 11h à l'Université Dufour pour votre conférence. Aline Helg, vous, ce sera demain, mais à la même heure et au même endroit à l'Université Dufour.
Exactement, voilà. Et cet après-midi pour les collégiens.
Oui, tout à fait, 2 ou 3 collégiens auxquels vous parlerez.
Et vous allez faire votre petit programme, j'imagine, de votre côté, Anaïs. Vous avez déjà repéré des petites choses et participé peut-être vous-même aussi à certaines des discussions et des débats qui se tiendront sur place à Genève à l'occasion de ce festival Histoire et Cité.
Oui, alors peut-être à 18h, découvrir cette version suisse des Live Magazine Journalistes Unplugged pour voir un petit peu comment ce format passe une deuxième fois la frontière, puisque les Live Magazine étaient d'inspiration anglo-saxonne, qu'elles sont arrivées en France et maintenant elles arrivent en Suisse. Bon, alors la moitié des invités sont des Français, puisqu'il s'agit de deux personnes qu'on connaît bien à la Fabrique de l'Histoire, Étienne Davodeau et Sylvain Venère. Et puis ce soir, peut-être à 20h45, un très beau film, très mal distribué en France, qui est sorti il y a 2 ans, Territoire de la Liberté d'Alexander Kuznetsov, sur les Izbas et Datcha de montagne, qui tentent de recréer pendant leurs vacances, en tout cas, des espèces de vie alternative et d'auto-libération face à la Russie de Vladimir Poutine. Ce sera à l'auditorium Arditi.
Et donc un beau programme varié, comme toujours donc pour Histoire et Cité à Genève, et on peut conseiller à nos auditeurs qui sont frontaliers ou ceux même qui nous écoutent depuis la Suisse, et ils sont nombreux, de s'y rendre pendant tout le week-end jusqu'à demain et après-demain. Et on peut dire aussi qu'il y aura on a écouté tout à l'heure un morceau d'Edwin Schulhoff, qu'il y aura donc un concert ce soir sur les espoirs sonores.
Par les élèves du conservatoire.
Voilà, compositeur privé de liberté entre 1933 et 1945, organisé par la Haute École de Musique de Genève. C'est donc à 20h30 au Conservatoire de Musique de Genève. Merci à vous, merci Aline Helg et merci Andreas Würgler d'être venu nous présenter ce festival Histoire et Cité à Genève. beaucoup de sujets, évidemment, au sein de la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui, dans cette émission Histoire Actualité du vendredi. Et le dernier, comme tous les vendredis, bien entendu, eh bien, il s'agit de C'était à la une, la rubrique qui est proposée par la Fabrique de l'Histoire en partenariat avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Retro News. Aujourd'hui, une lecture par Hélène Losseur d'un article du Figaro. C'était le 20 mars 1871 et nous sommes donc quasiment à un anniversaire, 20 mars 1871 dans le Figaro, les premiers jours de la Commune, lu par Hélène Losseur.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Figaro, 20 mars 1871, le premier jour de la Commune. On comprendra qu'en présence des événements qui se sont accomplis dans la journée d'hier, nous donnions ici sans commentaire tous les renseignements que nous avons pu recueillir et nous garantissons leur parfaite authenticité. On nous raconte que le général Lecomte est fait prisonnier avec son état-major au Château Rouge. On lui fait signer une déclaration par laquelle il s'engage à ne pas tirer son épée contre Paris. Sur les anciens boulevards extérieurs, depuis Batignolles jusqu'à la Chapelle, tous les établissements publics et toutes les boutiques sont fermés. Aucun omnibus ne circule. Sur les places et au débouché des rues, on voit des gardes nationaux en sentinelle. Durant toute la journée, de nombreux ouvriers volontaires ont été occupés à fortifier la butte Montmartre. On a creusé des tranchées plus profondément, on a solidifié les redoutes, on a mis les canons en place. Nous devons dire, pour être dans le vrai, que la plupart des ouvriers qui remuaient la terre étaient des enfants de 12 à 14 ans. 2 heures. Des citoyens, protégés par une haie de gardes nationaux, élèvent une barricade en haut de la rue des Martyrs, la rue Germain-Pidon, qui monte vers Montmartre, est défendue également par une pièce d'artillerie placée à son sommet. 2 heures et demie. Un bruit de tambour se fait entendre. De quoi s'agit-il? C'est une mitrailleuse attelée qu'une compagnie de gardes nationales va mettre en position. 3 heures. Les quartiers qui avoisinent l'hôtel de ville sont calmes. On ne remarque dans ce quartier aucun déploiement de forces militaires. 3 heures et demie. Le commandant général des forces de Montmartre, entouré de son état-major, paraît sur la place Saint-Pierre. Il annonce qu'il ne reste plus qu'à marcher sur l'hôtel de ville. Acclamation. 4 heures. Le général Clément Thomas, en habit bourgeois, est reconnu boulevard Rochechouart et immédiatement arrêté par des gardes nationaux qui le conduisent au comité de la rue des Rosiers en suivant la rue des Trois Frères et celle de Chappe. Monsieur Clément Thomas était extrêmement pâle. Sauf un coup de bâton qu'il a reçu sur la tête, il n'a pas été trop maltraité. C'est rue des Rosiers que siège la cour martiale de Montmartre, où le général Lecomte avait déjà été amené depuis plusieurs heures. 6 heures et demie. On élève des barricades à la place Blanche, au débouché de la rue Blanche et de la rue Fontaine. 3 bataillons à peu près prirent par la rue des Martyrs, où les groupes ne répétaient qu'avec un enthousiasme médiocre leur cri de « Vive Garibaldi, vive la République !» Les premiers de ces hommes marchaient assez militairement, mais il en était autrement déjà dès le second bataillon, et dans le troisième, on portait l'arme avec un sang-gêne et une fantaisie qui n'avaient rien d'effrayant. Au moment où ces hommes quittaient Montmartre, le bruit courait que les généraux Clément Thomas et Lecomte avaient été fusillés. Une cantinière de la garde nationale affirmait avoir assisté à l'exécution et certains gardes nationaux se vantaient d'y avoir pris part. Le général Lecomte et Clément Thomas ont été en effet fusillés à 5h30 rue des Rosiers dans un jardin. Un officier des volontaires garibaldiens a exprimé le désir qu'il fût procédé à un simulacre de jugement, mais sa voix a été couverte par les cris de « À mort, à mort !» et l'on a passé outre. Clément Thomas a opposé une assez vive résistance. Il a été saisi par quelques individus qui l'ont adossé contre un mur et il a été fusillé presque à bout portant. Il a reçu, nous a-t-on dit, 20 balles dans la poitrine. Le général Lecomte est mort en soldat. il n'a pas voulu qu'on lui bandât les yeux et est resté coiffé de son képi. L'après-midi a été consacré à la construction des barricades dans tout le 11e arrondissement. Rue Saint-Sébastien, rue Saint-Sabin, rue Sedaine, rue du Chemin Vert, on élevait des barricades de pavés habilement disposées d'après le système de la fameuse commission des barricades. À 5h, Belleville appartient tout entier à l'insurrection.
Un extrait donc de l'article du Figaro du 20 mars 1871 sur les premiers jours de la Commune, lu par Hélène Losseur dans une réalisation de Séverine Cassard. Et bien entendu, si vous voulez lire l'intégralité de cet article, allez donc sur le site de France Culture et on vous conduira sur le site de Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Myriam Guillot était avec nous à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Remercions également Anne-Marie Zurcher et les studios de la Radio Suisse pour avoir accueilli nos amis donc de l'Histoire et Cité à Genève. La semaine prochaine, la Fabrique de l'Histoire vous parlera des rapports de la France à l'Égypte à l'occasion de la grande exposition qui commence à l'Institut du Monde Arabe sur le canal de Suez, mais également, vous le savez, des élections présidentielles en Égypte. Et lundi, on abordera en particulier le goût pour les momies en France avec une historienne qui a travaillé sur leur présence dans les fictions.